Je voudrais vous lire ce matin un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Ézéchiel et qui parle de sentinelles. Alors je voudrais que vous preniez, si vous avez vos Bibles, au chapitre 33 d'Ézéchiel, du verset 1 à 16. Voilà, c'est mieux, on m'entend mieux. Donc Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 16. Je vous demanderai d'être attentif à la lecture de ce texte qui explique que le prophète Ézéchiel est une sentinelle dans son pays. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, je dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juge ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le sage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. C'est Ézéchiel, ce prophète, qui va donner ce texte alors que Israël est dans un piètre état. Il vient d'être colonisé, détruit par le roi Nabuchodonosor. Et donc, Ézéchiel est là. Et vous savez que le nom d'Ézéchiel, ça veut dire « Dieu fortifie ». C'est-à-dire, c'est Dieu qui fortifie. Et la maison d'Ézéchiel, finalement, était devenue une maison où tous les gens qui avaient subi l'attaque de Babylone, eh bien, se retrouvaient pour parler du bon vieux temps, se rappeler les souvenirs du pays. Et Ézéchiel ne va pas pouvoir s'empêcher de parler au peuple d'Israël. Et un peu plus loin, au chapitre 4, au verset 16, toujours dans Ézéchiel, où, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, « Fils d'homme, je t'ai fait sentinelle pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Et là, le prophète prend la responsabilité d'annoncer au peuple d'Israël ce que Dieu lui dit d'annoncer. Et finalement, le prophète va aussi expliquer quelque chose. Il va prêcher la responsabilité personnelle du croyant. Il y a une semaine, on est allé se promener avec Pascal, Céline et puis Gabriel et Daniel à Ostende. Et il y a une chose que je voulais absolument faire, c'est d'aller voir le fort Napoléon. Et c'était un peu compliqué parce qu'il fallait prendre le bateau pour traverser le port d'Ostende. Mais c'était bien, il faisait très froid, j'avais qu'une petite veste, mais c'était très bien. Et on arrive devant ce fort qui est magnifique, hein, et qui est une fortification. On se demande comment les gens pouvaient arriver à le prendre. Et à l'intérieur du fort, il y avait bien sûr des postes pour les sentinelles, pour qu'ils surveillent si quelqu'un allait venir attaquer le fort. Et si jamais ils arrivaient à passer la première enceinte, ce qui était possible, il y avait ce qu'on appelait un fossé sec. Et à l'intérieur de ce fossé sec, il y avait des avancées en angle aigu, comme ça. Et les soldats étaient là dans ces angles et surveillaient. Et donc, plus personne ne pouvait passer. Et c'était intéressant de voir que finalement, ce fort n'a jamais servi parce que c'est Napoléon qui croyait que les Anglais allaient débarquer à Ostende pour le mettre dehors du pays qu'il avait conquis. Et il n'a jamais servi parce que le fort était tellement bien que les Anglais se sont rapprochés et ont vu ça, ont dit « bon, c'est pas la peine, on s'en va ». Ça m'a fait penser à ça, cette notion de sentinelle et de responsabilité que nous avons. Lorsque il y a eu la destruction de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor, eh bien, le service d'Ézéchiel n'était pas complètement terminé. Et Dieu va lui reconfirmer sa mission. On vient de le lire, hein, au verset 7. Et les avertissements qu'il donne étaient d'autant plus importants que même si les dangers extérieurs, c'est-à-dire les dangers des armées de Nebuchadnezzar, c'était fini, Israël était vaincu, il restait des dangers intérieurs. Et ce danger intérieur, le prophète le dit, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Et c'est toujours resté quelque chose qui était présent dans le peuple d'Israël. Et cette répétition fréquente de parler du méchant, de celui qui se repent, eh bien, ça touche aussi notre conscience. Si Dieu juge bon d'insister à ce point sur notre rôle de sentinelle, eh bien, c'est pour que nous y prenions garde. Tous les prophètes ont parlé de ça. On revoit dans Ésaïe, au chapitre 21 et du verset 6 à 10, il dit « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. » Donc ça, c'est un autre prophète. Hein. « Car ainsi, Ésaïe, m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. » Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers, deux à deux. » Elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Toujours le Dieu utilisait les prophètes pour être des sentinelles. Et donc, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Et on peut ressentir exactement cette même chose. Dieu nous annonce des choses à travers sa parole. Est-ce que nous les gardons pour nous ou est-ce que nous en faisons usage pour nous-mêmes et pour aider tous nos frères et nos sœurs. En Job, au chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Dieu nous prévient que c'est important de savoir ce que Dieu veut pour nos vies. Et le prophète Ézéchiel avait eu la responsabilité d'avertir ses contemporains du jugement que Dieu allait annoncer et allait donner. Et son privilège était maintenant d'appeler la consolation. À un moment, les peuples d'Israël m'ont dit « on est plein de péchés, comment est-ce que nous allons vivre ? Comment vivrions-nous » Et le prophète ne devait pas négliger d'avertir ceux qui ne s'étaient pas encore repentis et qui étaient donc toujours sous la colère divine. Et c'est à ce moment-là que l'attitude que devait avoir le peuple d'Israël, comme nous, nous devons avoir cette attitude, eh bien, tout simplement, c'est de nous humilier devant la main puissante de Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre qui, dans sa première lettre au chapitre 5, verset 6, dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Seuls ceux qui s'étaient repentis pouvaient s'approprier les consolations et les bénédictions que le prophète allait développer dans les autres chapitres. Seuls ceux qui s'étaient repentis, humiliés, qui avaient compris que pour retrouver la relation avec Dieu, c'était de s'humilier, de se dire « Oui Seigneur, on a des péchés, oui Seigneur, on fait mal, mais on veut changer, on veut... » Et ça, c'était le rôle de la sentinelle de leur rappeler ça. Alors, c'est dans nos vies actuelles, eh bien, il faut nous garder de prêcher la grâce sans insister sur la nécessité de la repentance. Et l'équilibre entre ces deux aspects est indispensable. Si nous prêchons la grâce, et c'est ça qui est le plus important, mais que nous ne prêchons pas que ça nécessite la repentance, eh bien nous loupons quelque chose. Nous loupons quelque chose. Alors, qu'est-ce que la vie par repentance ? Eh bien, là, c'est la responsabilité individuelle que nous avons. Et la question du verset 10 est là, comment vivrions-nous ? On est plein de péchés, on est plein d'iniquité, on n'est rien devant Dieu. Comment est-ce que nous allons pouvoir vivre cette grâce ? Et nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. C'est le verset 10 qui dit ça. Et le mot de langueur, c'est un mot qui est affaibli, car la vraie traduction, c'est, je vais vous le relire avec la vraie traduction, « Nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes en train de pourrir, que nous pourrissons. Comment pourrions-nous vivre ? C'est souvent ce que disent les gens, « Ouais, mais moi, je suis tellement moche. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ? Comment vivrions-nous ? » Et lorsque nous sommes découragés par nos faiblesses, nos péchés, nos luttes, nos défaites, eh bien, nous pouvons présenter la réponse que donne le prophète, « Repentez-vous et vous vivrez. » Nous sommes touchés par l'insistance avec laquelle Dieu nous appelle à nous tourner vers lui. On a chanté tout à l'heure « Tournez vos yeux vers le Seigneur ». C'est exactement ça que prêche le prophète et qu'il le prêche à nous, finalement. Il faut être réconcilié avec Dieu. Alors, il y a deux réactions devant notre état. Eh bien, il y a deux réactions. C'est le désespoir qui oublie la grâce de Dieu. Vous savez que cette année, on va fêter Luther. Et son gros problème à Luther, c'était la culpabilité. Il était tellement faible, il se disait tellement faible, et ce qu'il était, comme nous sommes, devant les péchés qu'il avait, qu'il disait « c'est pas possible que Dieu puisse nous sauver ». Et sa vie a commencé comme ça. Il a voulu rentrer dans un monastère, et il s'est privé, il se mortifiait pour... c'était le désespoir. Plus tard, il comprendra que la grâce de Dieu nous permet de vivre avec ça et nous permet de changer. Et la deuxième attitude que nous pouvons avoir, c'est la révolte, qui consiste à contester la justice de Dieu. Et ces deux réactions, eh bien, nous pouvons les retrouver aujourd'hui, ou le désespoir, ou la contestation. C'est Dieu reste le même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il est à la fois bon et sévère. En Romains, chapitre 11, verset 22, il dit « Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. » Et on va voir que cette attitude, elle n'est pas nouvelle. Lorsqu'on lit la suite d'Ézéchiel, entre le verset 17 et 20, il nous dit, on voit les Juifs qui résistent et qui en veulent finalement à Dieu. « Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. » C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Les Juifs vont porter un jugement sur les voies de Dieu parce qu'ils sont aveuglés par leurs péchés. Et ce principe reste valable pour nous. Notre appréciation spirituelle dépend de notre état moral. Si, lorsque nous remettons en question l'enseignement des Saintes Écritures, lorsque nous remettons en question l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, eh bien c'est que notre relation avec Dieu n'est pas au plus haut. Alors, comment est-ce que nous pouvons être des guetteurs? Comment est-ce que nous pouvons essayer d'annoncer ce que Dieu veut pour nous? Alors, il y a probablement, vous vous dites, qui suis-je pour aller dire à quelqu'un, il faut faire ci, il faut faire ça? J'ai retrouvé un petit poème que j'avais, je ne sais plus qui est l'auteur, et je trouve qu'il est tellement vrai. Qui suis-je? Qui sommes-nous pour être des sentinelles? Ne sommes-nous pas parfois endormis? Seigneur, comment pourrais-je corriger et redresser mon frère alors que je suis moi-même un arbre noueux et tordu? Comment pourrais-je être une sentinelle qui surveille alors que je suis si souvent endormi? Comment pourrais-je aider mon frère à marcher droit alors que souvent je biaise et je triche? Comment pourrais-je aider mon frère à porter sa croix alors que si souvent je tombe? Alors, notre force pour être une sentinelle, c'est pas nous. C'est pas ma force personnelle, c'est pas mon intellect, c'est pas les petites résolutions que je me donne tous les matins en me levant. La force d'être une sentinelle, elle provient pas de moi. Elle est établie, cette force, par l'Esprit Saint. Comme Dieu avait établi Ézéchiel sur la maison d'Israël. Notre rôle de témoin et de sentinelle consiste à vivre notre foi comme un plus. Comme un chrétien sentinelle, c'est une personne qui laisse vivre le Christ en lui, la parole de Dieu en lui, vivre en lui pour sa joie et celle des autres. Voilà ce que c'est qu'être une sentinelle. Jésus est notre exemple. Il y a un écrivain qui a dit, à propos de Jésus, c'était un homme joyeux. Ce fut sur le chemin qu'il rencontra les tristesses de tous les hommes. Et cette tristesse, c'est le fait d'être pécheur. Nous sommes tristes lorsque nous faisons des choses qu'on n'a pas envie de faire. Nous sommes tristes lorsque nous n'arrivons pas à vivre ce que le Seigneur nous donne. Eh bien, notre rôle de sentinelle, c'est pas de nous enfermer dans un port Napoléon, un fort Napoléon, et de tirer sur tout ce qui bouge. Non, notre rôle de sentinelle, c'est de regarder les autres et de leur apporter notre joie en Christ, pour qu'elles puissent rayonner tout autour de nous. Pour être de bonnes sentinelles, il faut être conscient de notre responsabilité dans l'Église et autour de nous. Il faut annoncer la repentance qui mène au salut par la grâce. Il faut absorber par amour les conséquences parfois d'un refus de la grâce des autres. C'est dur d'avoir des gens que vous aimez et qui refusent la grâce. Eh bien, il faut absorber ça par amour. Il faut être des témoins joyeux, d'être des enfants bien-aimés de notre Seigneur. Voilà ce que c'est qu'être une sentinelle. C'est vivre la joie du Christ en nous et de la propager aux autres. Grâce à une fortification qui est l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Nous sommes dans un fort qui ne peut pas être pris par l'ennemi, parce que nous avons l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Alors, soyez des guetteurs, des sentinelles, avec la joie au cœur. Amen.